Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
On a vu précédemment des très beaux titres de la Vierge Marie dans les numéros 721 et 722 du catéchisme de l'Église catholique, tels que celui de Trône de la Sagesse, de Fille de Sion. Et il en est proposé un autre au 724, qui est celui de Buisson Ardent. Pourquoi peut-on dire que la Vierge Marie est un buisson ardent ?
Alors, on pense bien sûr au fameux buisson de la théophanie que Dieu a accordé à Moïse, où le buisson brûlait, mais faisait des flammes, mais ne se consumait pas. Eh bien, la Vierge Marie, d'une certaine manière, on peut le dire dans son Immaculée Conception, elle est à la fois celle qui donne la vie, donc la vie passe à travers elle, mais en même temps, elle reste vierge. Elle reste immaculée et elle reste vierge avant l'enfantement de Jésus, pendant l'enfantement, pendant que l'Esprit Saint fond sur elle et la féconde, et après, elle reste encore vierge. Donc c'est un dogme de foi qui, dans les icônes, sont représentés par les étoiles qui sont sur les deux épaules de la Vierge Marie et sur son front, sur le voile de son front, pour rappeler cette triple virginité, avant, pendant et après. Et on peut dire que ces trois étoiles rappellent cette figure de l'Ancien Testament où le buisson ardent donnait de la flamme, donnait de la vie, donnait de la voix, puisque c'est Dieu qui parlait dans le buisson, et c'est le Logos qui parle du sein de la Vierge Marie, c'est le Logos, la deuxième personne de la Trinité, qui prend chair en elle et qui est le Verbe fait chair du prologue de l'évangile de Saint Jean, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Voilà une manière d'interpréter, il y en a d'autres, ce grand titre de buisson ardent à propos de la très sainte Vierge Marie.
Oui, on lit à la fin de ce paragraphe qu'elle montre le Verbe dans l'humilité de sa chair, et c'est aux pauvres et aux prémices des nations qu'elle le fait connaître, un peu comme ce buisson qui est quelque chose d'assez anodin, un buisson, et en même temps, Dieu a voulu passer par ce buisson anodin pour se manifester à Moïse. Donc il y a un lien d'humilité entre ce buisson et la Vierge Marie aussi.
Oui, et puis la Terre Sainte, c'est le premier lieu dans la Bible, on le voit aussi chez quelques prophètes, où le mot Terre Sainte est appliqué. Et donc Dieu dit à Moïse, retire tes sandales, car la terre que tu foules est sainte. Et on voit apparaître le concept de Terre Sainte qui va être si fort pour nous, puisque partout où Jésus va, eh bien, il y a une terre qui devient sainte. C'est pour cela que nous parlons de la Terre Sainte, les lieux où Jésus a pu vivre sa vie d'homme, que ce soit à Nazareth, que ce soit à Jérusalem, que ce soit même au nord, jusqu'à Sidon, au Liban, ou en Égypte, il a fait un bref passage en Égypte. Tout ça, pour nous, c'est la Terre Sainte, c'est la terre que Jésus a foulée, et de nos jours, là où Jésus rayonne dans la très sainte Eucharistie, on peut dire aussi que c'est la suite, le prolongement, l'extension de la Terre Sainte.
L'Esprit Saint semble, demande à Marie de porter le Christ et de nous le donner, mais l'Esprit Saint ne semble pas s'arrêter là avec la Vierge Marie, parce qu'on lit au 725 que par elle, l'Esprit Saint va commencer à mettre en communion avec le Christ les hommes. Et donc il y a une mission qui est confiée à la Vierge Marie, semble-t-il, de réunir les hommes autour du Christ.
Oui, et on le voit dans la vie du Christ, ce moment crucial qui est rapportée par l'évangile de Saint Jean au pied de la croix, puisque au pied de la croix il y avait Marie, sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Et que dit Jésus ? Il ne dit rien à Marie-Madeleine, il ne dit rien à Marie, femme de Clopas, il dit seulement une chose, il le dit à la Vierge Marie, sa mère, et il lui annonce que Jean puisse devenir son fils, hein, alors que c'est lui le fils bien-aimé du Père, c'est lui véritablement qui a été enfanté dans le sein de la Vierge Marie, mais il y a comme une transmission, une adoption qui est faite à ce moment-là de Jean. Hein, et je vous lis le passage. « Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Et il y a vraiment, à ce moment-là, une adoption qui a lieu. Et Jean représente finalement l'Église tout entière. Jean représente nous tous qui sommes adoptés par la Vierge Marie. Nous n'avons pas crainte de prendre chez nous la Vierge Marie, comme Joseph n'a pas eu crainte tout au début de l'histoire sainte de Jésus, n'a pas eu crainte, selon la demande du songe prophétique qu'il a eu, de prendre chez lui la Vierge Marie. Et il y a donc cette communion qui s'étend, eh bien, d'adopter en adopté. Nous adoptons par le seul fait que nous donnons les uns aux autres le baptême, qui nous plonge dans la mort et la résurrection du Christ, qui nous plonge donc dans le mystère de sa croix. C'est au pied de la croix que cette adoption a lieu. Et nous-mêmes, notre baptême nous permet de nous plonger dans la mort et la résurrection de Jésus et d'être ainsi fils dans le Fils, selon cette belle expression du Concile Vatican II dans Gaudium et Spes. Nous devenons fils dans le Fils. Et c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est l'œuvre, je dirais, concomitante aussi de la Vierge Marie, notre mère, puisque la Vierge Marie est non seulement mère de Dieu, mère de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, mais elle est mère de l'Église, n'oublions pas. Hein. Le pape Saint Paul VI a voulu, pendant le Concile Vatican II, le rappeler, que cette maternité ne s'arrêtait pas à son fils, mais s'étendait au corps de son fils. Et quel est le corps de son fils? C'est l'Église, le corps mystique. Et donc Marie a un rôle d'enfantement dans ce corps mystique de l'Église, et c'est très juste qu'elle commence à mettre en communion avec le Christ les hommes objets de l'amour bienveillant de Dieu, et les âmes sont toujours les premiers à le recevoir, les bergers, les mages, Siméon et Anne, les époux de Cana, les premiers disciples. Et comme par hasard, bien, la Vierge Marie est là à Cana, la Vierge Marie est là avec Siméon et Anne, la Vierge Marie est là avec les bergers, les mages, et donc on sent bien que son rôle est crucial.
Oui. Et on la retrouve même après la Pentecôte, avec les apôtres, et elle semble encore jouer ce rôle de réunir autour d'elle, pas autour d'elle, mais autour du Christ. Elle a cette mission de réunir les hommes autour du Christ.
Autour du Christ et dans l'attente du Saint-Esprit, puisque dans les Actes des apôtres, il est clairement signifié que dans la chambre haute où les apôtres étaient réunis et qu'ils attendaient le don promis par Jésus, le don du Saint-Esprit, eh bien, on nous dit très clairement que la Vierge Marie est présente. Je vous lis, c'est dans Actes 1, verset 14, après avoir donner la liste des 11 apôtres, il n'y en a plus que 11, puisque malheureusement Judas est mort et s'est suicidé, eh bien, après avoir trahi sans aller vers le repentir, sans aller vers le don que certainement Jésus lui aurait fait s'il avait accepté de se repentir, il est écrit, donc, juste après la liste des 11, « Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus et avec ses frères. C'est très émouvant de voir la famille élargie des cousins qui est là, les femmes, les saintes femmes qui ont leur rôle depuis le début du ministère de Jésus, qui est bien exprimé dans Saint Luc, où les femmes accompagnent aussi les apôtres, et puis les apôtres. Il y a comme trois groupes, et les trois groupes sont unifiés par la présence de la Vierge Marie qui reçoit le respect de tous, et des apôtres, dont Jean est le premier, je dirais, à avoir assisté à cette parole extraordinaire que nous avons entendue il y a un instant au pied de la croix. Et les onze apôtres ont une vénération immense pour la mère de Jésus, mais aussi les autres femmes, parce qu'elle se détache du groupe des autres femmes. Elle est la première de toutes ces femmes qui ont voulu suivre le Christ. Elle est dans la sequela Christi elle-même. Elle suit le Christ. Et Jésus, à bien des égards, l'a rappelé dans, quand on lui a posé des questions, en disant « Heureux celui qui... écoute la parole de Dieu, mais plus encore est dans le bonheur celui qui la met en pratique. Et la Vierge Marie est celle qui a mis en pratique cette parole de Dieu jusqu'au bout.
On a l'impression que le Christ a voulu passer par Marie pour venir jusqu'à nous, mais qu'il nous encourage à aller jusqu'à lui en passant nous aussi par Marie. Avec ce qu'on vient d'entendre.
Oui, et c'est pour cela que le catéchisme dit très bien au 726 qu'elle est mère des vivants, mère du Christ total. C'est une expression de saint Augustin. Le Christ total, c'est tête et corps. Et nous sommes le corps du Christ par adoption. Nous sommes intégrés à ce corps total et nous pouvons donc nous réjouir de recevoir cette maternité de surcroît, je dirais, puisque nous avons déjà notre mère qui nous a donné la vie, notre mère terrestre, notre maman comme on l'appelle, mais nous pouvons dire aussi que nous avons celle qui nous enfante au royaume, à la vie de l'Église. Et le texte donc précise bien du catéchisme numéro 726, Marie devient la femme, comme c'était dit au pied de la croix, hein, femme, voici ton fils, telle qu'elle est présente avec les douze, d'un même cœur assidu à la prière, à l'aube des derniers temps que l'Esprit va inaugurer le matin de la Pentecôte avec la manifestation de l'Église.
Merci, et merci Seigneur de nous avoir donné la Vierge Marie.
Amen, ainsi soit-il.